Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Nous ouvrons le printemps avec des œuvres qui nous ont fascinés, emportés, questionnés, éblouis. Et oui, c'est ça la culture. Elle nous émeut, nous secoue, nous fait vibrer. Elle a le pouvoir exceptionnel de remettre en cause tous nos éventuels préjugés. Oui, nous allons tenter de vous réveiller de la torpeur hivernale grâce à des livres et des films qui nous ont plu. Pour ce défi, j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui par Amy, Willy et Yann, ainsi qu'Aurore à la technique. Nous commençons par un roman suisse, La famille Rook, de Katja Schoenherr, puis direction l'Australie avec Apples Never Fall, ou C'était Match en français, enfin le titre qui a été donné en France, de Liane Moriarty, puis la France avec Le lac de la création de Rachel Kushner. Nous enchaînerons avec un retour sur un roman français culte, Banlieue sud-est de René Fallet. Nous évoquerons ensuite la saga d'un personnage littéraire devenu un incontournable héros de cinéma, à savoir James Bond 007. Et avant de vous recommander le Grand Prix du Festival de Cannes 2024, All We Imagine As Light de Kayal Kapadia, c'est ça Amy? Mais littérature pour commencer, avec La famille Rook de Katja Schoenherr. C'est un roman qui met en scène une famille où tout se dit sans filtre. À 84 ans, Inge, la matriarche, ne s'estimait pas vraiment vieille et se débrouillait plutôt bien toute seule, jusqu'à ce qu'une mauvaise chute dans l'escalier la précipite dans le monde de la vraie vieillesse. Son col du fémur fracturé va nécessiter une longue convalescence. Elle a deux fils, Jens, qui a fui aux États-Unis pour vivre son homosexualité loin du regard accusateur de ses parents, et surtout loin de l'hostilité de son frère, qui n'a cessé de le brimer pendant leur enfance. Et ce dernier, Carsten, 55 ans, est directeur commercial d'une entreprise de films alimentaires, des sachets de congélation, au grand dam de Lisa, sa fille écolo, très engagée, de 15 ans, en colère contre la terre entière, à commencer par son père. Bien qu'ils se disent toujours en déplacement professionnel à l'étranger, Carsten n'a d'autre choix que de s'occuper de sa mère lorsqu'elle sort de l'hôpital. Il le fait clairement à contre-cœur. Divorcé, égoïste, menteur pathologique et peu concerné par Lisa qui l'emmène malgré elle, Carsten doit consentir à retourner 3 semaines durant dans le petit village d'Exerdea, où il a grandi et où ne vivent presque plus que des personnes âgées qui épient tout ce que font les voisins. On va suivre ces 3 personnages pendant l'été où ils cohabitent, et c'est exquis. Des 3 générations différentes, ils sont incapables de se parler normalement, incapables de s'entendre. Et personne n'a l'intention de mettre de l'eau dans son vin. Les souvenirs remontent, frustration, jalousie, malentendus. On oscille entre humour et amertume dans cette comédie sociale féroce, où les rôles imposés à chacun sont autant de carcans. Je vais vous lire 3 phrases qui reflètent bien l'atmosphère du roman. Parler à sa mère, c'est comme d'essayer de replier une notice après l'avoir lue. On n'y arrive jamais, ça se termine toujours dans la rage. Et une autre, le mariage d'Inge et Richard n'était pas passionné, mais il fonctionnait car les tâches étaient clairement réparties. Inge faisait tout et Richard ne faisait rien. Et la dernière, partager un village, c'est comme partager un appartement. On ne peut pas s'éviter et quelqu'un a toujours besoin de la salle de bain en même temps. La plume féroce de Katja Schoenherr, auteur du remarqué Martha et Arthur, maîtrise parfaitement l'art de mettre en tension ses personnages dans une écriture très lucide et visuelle. Elle parvient à créer des personnages très humains, qui nous semblent vraiment proches. On y reconnaît beaucoup de soi-même ou des autres. Et on ne peut pas dire qu'on aimerait passer les fêtes de fin d'année avec ce trio. Ça non. Mais sur le papier, ça se passe très bien. On va passer à Liane Moriarty maintenant, grâce à Amy.
Merci Anne. Alors moi, ça va être une toute autre famille. Alors bon, assez particulière aussi sur dans ce roman, donc Apples Never Fall de Liane Moriarty, ou traduit en français effectivement par C'était Match. Alors ce thriller que j'avais lu et commandé il y a plusieurs années et que j'avais mis à disposition à la bibliothèque Montrichon en anglais pour vous, chères auditrices et auditeurs, est revenu sur le devant de la scène en ce moment, porté par Annette Bening et Sam Neill sous la forme d'une série qui est dirigée par Chris Sweeney et Dawn Shadforth, qui a été récompensée au Festival Sérimania 2024. Alors elle est inspirée donc du best-seller de Liane Moriarty, intrigue avec... Disons que ça intrigue plutôt avec son récit de famille dysfonctionnelle, mais qui divise malgré tout les critiques. Et c'est une des premières fois où j'ai un livre qui... entre la série que j'ai pu voir et le livre, je ne saurais pas trop... j'ai besoin vraiment de vos retours parce que vraiment, ça m'a énormément surprise, mais dans le mauvais sens du terme, justement, pour une fois. Par contre, vous pouvez effectivement retrouver également ce roman français à la Bibliothèque Saint-Corneille. Alors, Apples Never Fall, le titre fait référence au dicton « Apples never fall far from the tree ». Donc, en français, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Et l'idée qui découle, en fait, à la fois dans la série et dans le roman, c'est l'idée que tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, ceci étant dit, passons au décortiquage de ce roman en série. Et Liane Moriarty explore les complexités familiales à travers l'histoire des Delaney. Stan et Joy, parents et anciens entraîneurs de tennis, voient leur équilibre perturbé par l'arrivée de Savannah, qui est une jeune femme qui fuit son mari violent et qui suscite la méfiance de leurs quatre enfants. Et ce qui fait qu'un an plus tard, Joy disparaît mystérieusement. Et le roman y dépeint les rivalités exacerbées d'une famille aisée qui plonge, dans le livre, c'est dit un petit peu les dégueulasseries familiales. Donc vous m'excuserez pour l'expression, mais malgré une structure assez classique, le suspense captive quand même. Et c'est l'apparition de Savannah qui agit véritablement comme un révélateur et qui ravive les jalousies et les inquiétudes de la tante. Alors l'histoire, elle est située dans le milieu du tennis australien, ce qui rappelle les thèmes chers à Liane Moriarty, donc notamment la dynamique familiale et la place centrale de la mère. Donc moi, je trouve que les traits vraiment des différents personnages est assez exagéré, peu nuancé. Ça les rend difficilement attachants, voire irritants. Alors, cette approche, je trouve qu'elle privilégie beaucoup des clichés assez faciles. Ça nuit à la profondeur psychologique des personnages. Ça les réduit à de simples outils au service de l'intrigue. Et je trouve que l'opportunité de créer des personnalités complexes et originales qui auraient pu donc surprendre et émouvoir, là, ça a un peu manqué, justement. Ça nous laisse sur notre faim. Et je pense qu'un développement vraiment plus approfondi et une exploration moins superficielle de leur personnalité aurait été considérablement enrichi, aurait considérablement enrichi l'expérience. Alors, ça ne révolutionne pas le genre, mais ça n'en reste pas moins un divertissement de qualité. Et puis, ça condense véritablement des interactions humaines au sein d'un microcosme narratif. Et puis aussi, ça se joue véritablement de toutes les structures sociales, des plus intimes aux plus vastes. Donc voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Et sinon, je passerai effectivement le relais à Yann pour sa présentation.
Justement, Amy, moi, j'allais dire, pour une fois que c'est pas Yann qui a un retour mitigé sur quelque chose, ça change un peu.
Ça change un peu.
Et pour info, la série, on peut aller sur le nom anglais ou sur le nom français ?
Sur le nom anglais.
Apples Never Fall.
Oui.
Okay. Et on peut la trouver sur quelle plateforme, tu sais ?
Oh, je m'en rappelle plus. Je sais que je l'ai vue il y a quelque temps déjà, mais en tout cas, c'est pas Netflix, ça assure.
Ça marche. Merci, Amy.
Merci, Amy. Avant Yann, moi, je vais parler du lac de la création de Rachel Kushner. C'est un roman peu commun. Si nous voyons souvent en littérature des écrivains francophones camper leur intrigue aux États-Unis, comme Joël Dicker ou Marie Vingras, ici, c'est l'inverse. Rachel Kushner, c'est une des plus grandes auteures contemporaines américaines. Et elle situe son nouveau roman, Le lac de la création, en France. Et en plus dans la France profonde, car après un passage à Marseille, c'est le sud-ouest, du côté du Périgord qu'elle choisit. Un lieu qui emprunterait à la Lozère, la Corrèze et au Périgord noir, et qu'elle nomme la Guyenne, nom qui était employé dans l'Ancien Régime pour désigner ses différentes provinces. Et dans ce décor rural, nous suivons Sadie, une espionne américaine, ex-agente secrète du FBI, devenue mercenaire pour de mystérieux commanditaires privés. Elle est venue infiltrer un groupe radical d'extrême gauche qui milite pour un usage respectueux des ressources naturelles et s'oppose notamment au projet des méga-bassines. Rachel Kushner s'inspire de faits réels, notamment du mouvement de Tarnac et d'une histoire vraie d'une espionne britannique qui avait infiltré un groupuscule militant en France. L'objectif de son héroïne est de l'ordre de la manipulation. Elle doit pousser le groupe des Moulinards à commettre un attentat. Tout le roman est ainsi sous tension. On se demande à chaque page si la mission va réussir, jusqu'où Sadie ira et si elle va être démasquée. Mais le lac de la création ne se limite pas à son intrigue haletante de roman d'espionnage, qui est déjà très réussi. Il prend une profondeur inattendue au fur et à mesure que Bruno et Jean nous livrent leurs pensées. Bruno et Jean sont les mentors du mouvement, deux anciens 68ards philosophes, activistes, disciples de Guy Debord. Le premier, aussi charismatique qu'énigmatique, pense qu'on peut réformer le capitalisme de l'intérieur. Le second est hanté par la question des origines de l'humanité et par celle de son extinction. Rachel Kushner propose ainsi de grandes digressions historiques et philosophiques dans les longs mails adressés au groupe et que Sadi intercepte, où Jean développe ses théories sur la différence entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Et là, le choix du Périgord prend tout son sens. On est dans un territoire où l'histoire de l'humanité est sous-jacente, où les grottes peintes racontent les premières formes d'art, de pensée et de communauté. Rachel Kushner nous apporte une subtile réflexion sur l'importance du passé, sur ce qui nous définit et ce vers quoi nous tendons. Tout son talent s'exprime dans ce croisement entre des réflexions profondes et une trame romanesque. Ce roman très riche parle d'écologie, de politique, d'humanité, et offre un regard américain sur notre pays, un regard souvent décalé, parfois critique. Elle interroge les modèles économiques et sociaux en place et nous invite à penser autrement. Ce faisant, elle dresse des portraits piquants, certains truculents, comme un personnage qui fait clairement référence à Michel Houellebecq. C'est que ce roman nous donne à réfléchir et en plus, ce que j'ai particulièrement aimé, il nous amuse grâce à l'humour froid, corrosif de l'héroïne. Ses sarcasmes, sa façon de créer un rapport de séduction malicieusement toxique pour manipuler les membres du groupe. Sadi est une agente sans scrupules, dénuée de sentiments, calculatrice. Le prénom Sadi connote d'ailleurs justement son caractère quelque peu sadique. En tant que lectrice, j'ai pas l'habitude de suivre une narratrice aussi cynique qu'intelligente et c'est assez fascinant, à tel point que je n'ai pas décroché de ma lecture, que je vous recommande.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Aujourd'hui, je veux vous parler d'un roman occupé par la vie. Quand on envisage une période a posteriori, on envisage cette période sous le réverbère souvent de la grande histoire. Surtout quand elle est trouble, difficilement compréhensible. C'est peut-être la façon dont on envisagera la période actuelle dans 50 ans si la planète résiste aux explosions égotiques des anciens grands blocs de la guerre froide et s'ils ne décident pas de vouloir imiter l'oncle Adolphe. L'oncle Adolphe, justement. Combien de romans tentent de parler de ce tsunami de violence, de bêtises que l'on nomme Seconde Guerre mondiale ? Les années noires, le STO, les collabos, les résistants, les attentistes et, je cite, tous ces pauvres cons qui ne furent ni des héros, ni des traîtres, ni des martyrs, ni des bourreaux, mais simplement, comme moi-même, des pauvres cons. Fin de citation, comme le disait Cavanna dans les Ruskov. Ainsi, on a eu le tatoueur d'Auschwitz, pour ne parler que du dernier abordé à ce micro il y a quelque temps. Aujourd'hui, je veux aborder un roman particulier, déjà ancien, mais que je viens de terminer, soit assis tranquillement dans mon fauteuil, soit blotti au fond de mon lit, le plus beau rayon de soleil qui existe à mes côtés. Je parle de Banlieue Sud-Est, de René Fallet. René Fallet ? Oui, René Fallet, l'ami de Brassens. Celui qui fit libérer son père pour avoir, selon les versions, écrit un slogan communiste sur un mur de Villeneuve-Saint-Georges pendant l'occupation. « La guerre, grosse malheur !» ou chanter l'international dans les rues de la même ville durant la même période en écrivant directement à Pétain. Le jeune Fallet réussira et prendra conscience de la puissance des mots. René Fallet, c'est aussi le créateur d'un chef-d'œuvre intemporel, la soupe aux choux, que les plus pétomènes d'entre vous m'excusent, mais également de l'amour baroque, entre autres. Bref. René Fallet, 19 ans, premier roman, 1946, publié en 1947. Et de quoi est-ce que ça cause au juste ? Ben, l'occupation. Plutôt d'une jeune bande de gars et de filles qui tentent de vivre leur jeunesse dans ce chaos international. Au programme, des clubs, des petites magouilles pour avoir un peu de blé ou avoir du confort, du marché noir pour survivre, un quotidien encore plus gris que la banlieue, que les trains de banlieue eux-mêmes, du jazz au marché noir, la drague, le cul, les premiers émois de cette chose immense que l'on nomme l'amour. Mais aussi la question de l'engagement, de l'antimilitarisme. Un SS tenu à bout de flingue. Homme ou SS ? Tout ça sans grandiloquence. Tout du point de vue du quotidien, banalement quotidien, du jeune Bernard et de ses amis. La première partie du roman, c'est du quotidien pur. D'ailleurs, on est un peu troublé au début. On se dit, il veut me parler de quoi, là ? Ok, je suis dans le contemplatif, je vois une jeune bande de gars, je vois pas trop qui est le personnage principal. Une ambiance, une atmosphère, l'occupation à Villeneuve-Saint-Georges. Il n'y a pas trop de SS, il n'y a pas trop de guerre. Ouais, ok, bon, sympa. Mais ça va m'emmener où ? Et progressivement, en fait, les bombardements sont là. Les jeunes parlent plus de la guerre. Ils s'en foutent. Elle nous fait chier, la guerre. Toujours. Elle fera toujours chier, cette guerre. Et au fur et à mesure, des choses arrivent. Des choses se passent autour de l'intrigue. Et nous emmène jusqu'à un point de palpitation incroyable où on mêle justement ce quotidien adolescent avec la barbarie, les horreurs et les interrogations qui accompagnent la guerre. Niveau style, du fallait tout cru. Incroyable pour un jeune de 19 ans. D'ailleurs, quand j'ai lu le livre et que j'ai su après qu'il avait 19 ans quand il l'a écrit, je suis tombé sur le cul. Heureusement, j'étais dans mon fauteuil, ça m'a fait du bien. Une profondeur dans le choix des mots, des implicites, des figures de style. Une langue orale avec de l'argomuche réel, style docu, mais pas le langage fleuri pour décorer le bouquin. On se retrouve dans l'ambiance des chansons de Brassens, etc. Puis là, paf, en plein P, une saillie poétique. Par exemple, pour finir son chapitre, « Et bulle de savon lactée, la lune monta au ciel, grâce au corps de lys des cheminées du monde. » Et on va avoir, comme ça, dans ce quotidien, on va voir les aventures totalement banales de ces jeunes. Et pour clore l'épisode, une phrase poétique. Et c'est là qu'on voit la grandeur de Fallet. C'est-à-dire qu'on va avoir une langue très simple, où il ne va pas vouloir faire du style à la Balzac, etc. Mais qui va tout faire pour finalement, comme si que son histoire, sa quotidienneté... Il nous raconte un micro-événement que tout le monde peut vivre à la même époque, mais lui, il va sortir un élément qui va en faire une poésie et qui va donner toute la couleur à ce roman. Donc le style, mélangé aux propos, qui peut sembler fort corrosif pour un jeune en 46, quand le héros dit quand même que... Ouais, bon, la résistance, vous êtes bien gentil, mais en fait, pourquoi ? Pour la France ? Pour la patrie ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la patrie ? Il y a les bombes qui nous tombent sur la gueule, on va reconstruire, le tout c'est de survivre. Et bordel, laissez-nous vivre nos 16 ans, nos 17 ans. Et surtout dans un roman qui, selon l'auteur, est aux trois quarts autobiographique, avec deux intrusions d'un jeune René Fallet. Où à un moment, il dit, et pendant ce temps-là, René Fallet parcourait les rues de la même ville, mais dans un autre quartier, allant d'un amour à l'autre, la clope au bec, et voilà, totalement insouciant. Fait de ce roman une perle à lire, à découvrir, à effeuiller, pour enfin soupirer et aimer. Vos mains trembleront, vos sens seront tourneboulés. La banlieue sud-est, c'est l'aventure.
Eh ben, si on n'est pas convaincu avec ça, merci beaucoup Yann. Pour notre pause musicale, je vous propose d'écouter un son de Propellerheads, History Repeating, chanté par la diva 60s Shirley Bassey, dont la voix exceptionnelle avait fait le bonheur des génériques des années 60 et 70, mais je ne vous en dis pas plus, les cinéphiles vont reconnaître.
About there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. News.
Cooling man, cooling boy. Feel the pain, feel the joy. And sidestep the little bits of history repeating.
Voilà, Shirley Bassey, l'inoubliable interprète de Goldfinger, un James Bond très célèbre. On va rester dans le sujet avec la saga James Bond 007. Il y a un mois, on était hors antenne et on parlait avec mes collègues, là autour de la table, de James Bond. Alors évidemment, quand on parle de James Bond, on se demande toujours celui qu'on préfère. Bon, ça, on verra ça, on pourra en discuter à la fin ou pas. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était comparer le personnage de papier au personnage, au héros de cinéma, ce qui est assez intéressant. Et donc, pour bien comprendre ce passage des romans au film, il faut tout d'abord revenir, mais très rapidement, sur son créateur, qui est Ian Fleming, 1908-1964. Né dans une famille fortunée, Fleming va longtemps chercher sa voie. Il commence plus ou moins une carrière militaire, avortée. Il passe à l'agence Reuters, mais ça va beaucoup l'aider à écrire. Quelques années dans la banque, et puis la Seconde Guerre mondiale arrive, et là, c'est un déclencheur pour lui, puisqu'il va rejoindre le renseignement naval. Et il va entrer en littérature avec un roman pour enfants, Chitty Chitty Bang Bang. Bon, ça, c'est pas très célèbre chez nous, mais en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est un livre de chevet pour les enfants. Immense succès public qui va inaugurer une décennie d'intense création. Et donc, c'est James Bond, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange, c'est de la littérature de gare, hein, purement et simplement, hein, tout simplement. Ça mêle de l'exotisme, des méchants totalement invraisemblables, de la torture, du sadomasochisme, du sexe, de la séduction. Et ça révolutionne totalement à l'époque, dans les années 60, le livre d'espionnage. Et donc, au même titre que la couronne britannique, James Bond va devenir, peu ou prou, un produit d'exportation. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 millions d'exemplaires qui sont vendus dans le monde entier. Et il va contribuer à sa façon au prestige international du Royaume-Uni. Il y en a même qui prétendent que James Bond aurait influencé la politique extérieure de l'OTAN, enfin occidentale, pendant la guerre froide. C'est possible. En tout cas, il faisait partie, notamment le roman Bon baiser de Russie, des livres préférés du président John F. Kennedy. Quand on lui avait demandé à un moment donné la liste de ses 10 livres préférés, et il y avait dedans Bon baiser de Russie. Donc c'est dans un secret, dans le livre qui s'appelle « Au service secret de Sa Majesté » 1963, que Fleming commence à lever une partie du voile sur le passé familial du héros. Et puis c'est dans « On ne vit que deux fois » 1964, que par l'intermédiaire de M, le fameux supérieur de 007, hiérarchique, il est amené à rédiger une notice nécrologique pour le journal The Times, alors que Bond est officiellement porté disparu. Bon, évidemment, il va ressusciter au cours du roman. On y apprend que James Bond donc, est le fils d'Andrew Bond, un Écossais, et de Monique Delacroix, une Suissesse. À 11 ans, il perd ses deux parents dans un tragique accident d'alpinisme dans le massif des Aiguilles Rouges, au-dessus de Chamonix. Ça, c'est au Mont Blanc. Ces éléments-là, on va les retrouver dans le film Spectre, celui avec Daniel Craig. Il part vivre chez sa tante, et en 1941, il va mentir sur son âge pour entrer dans la Royal Naval Reserve. Il en sort donc avec le grade de commandeur qu'il va conserver au sein du MI6. Hein, dans tous les films en anglais, enfin, quand on les regarde en version originale, on l'appelle toujours Commander Bond. Voilà la raison pour laquelle il est Commander. Et donc dans les livres, physiquement, bah, James Bond, à quoi ressemble-t-il? On nous dit, enfin c'est Fleming qui le dit, hein, Dixit, hein, une carrure mince, il a une cicatrice verticale sur la joue droite, qui est totalement absente des films, sourire un peu cruel, yeux bleus, gris, des cheveux noirs et courts, une mèche tombante sur le front. Ça c'est le James Bond du livre. Et dans Casino Royale, nous dit Ian Fleming, il va être amené à voir les lettres SH qui vont être gravées sur sa main par un agent russe, Spion, espion en russe. Et donc cette cicatrice sera effacée dans le livre « Vivre et laisser mourir ». Bon, ça c'est un truc qui n'apparaît pas du tout dans les films. Un dossier du Schmerch, qui est le service secret russe, nous précise que Bond mesure 1m83 et pèse 76 kg. Vous voyez, donc les détails sont très très précis. Il ne porte jamais de chaussures, enfin en tout cas avec des lacets, toujours des mocassins parce qu'il déteste les lacets. Et il a toujours aux montres une montre de poignet Rolex Oyster Perpetual. Donc ça, on peut le retrouver souvent dans les films. Dans les romans, il veille méticuleusement à la préparation de ses repas, c'est une obsession, hein, et des boissons qui lui sont servies, donc notamment cette fameuse vodka au shaker, etc. Au petit déjeuner, c'est son repas préféré, il se délecte des fameux œufs brouillés, toujours préparés par sa fidèle gouvernante écossaise, la fameuse May Maxwell, personnage qui là aussi n'apparaît dans aucun des films.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, oui, c'est dans, à Istanbul, quand je sais plus, dans le
Bon Baiser de Russie,
dans Bon Baiser de Russie, il ne prend pas le petit déjeuner traditionnel stambouliote, mais il prend un fromage blanc accompagné d'épices, etc., dont il se régale. Et a priori, j'ai entendu ça sur France Culture la semaine dernière, où la nourriture, justement, c'est une des grandes thématiques des bouquins de James Bond.
Oui, tout à fait. Et bon, c'est des repas pantagruels, et il mange énormément, etc. Et il boit également énormément. Hein. C'est-à-dire que toutes les trois pages, à peu près, il y a une boisson qui est servie. Bon, ça, c'était aussi le cas d'Ian Fleming, qui était bien connu pour apprécier les boissons alcoolisées. Mais dans les romans, ça revient systématiquement. Bon, ils ont toujours la cigarette au bec, etc., comme dans les films. Donc, au cinéma, James Bond, il va être incarné par plusieurs acteurs emblématiques. On les connaît tous. Le premier d'entre eux, c'est Sean Connery, qui est un Écossais, mais qui va interpréter 007 à 7 reprises au cinéma.
Et qui a failli épouser Aretha Franklin, d'ailleurs. Mais la famille d'Aretha n'a pas voulu, parce que ça faisait Aretha Connery.
Alors, il faut bien garder à l'esprit que Ian Fleming est vivant et présent au moment des tournages des trois premiers James Bond, à titre de conseiller technique ou il regarde ce qui se passe. Et il va même faire de Bond, donc là, dans un livre, qui est au service secret de Sa Majesté, un Écossais. Et ça, c'est en hommage à Sean Connery, parce qu'il avait beaucoup apprécié le personnage. Enfin, il avait apprécié Sean Connery et sa manière d'interpréter son personnage. Ils ont sympathisé tous les deux. Ensuite, il y a eu un film parodique qui s'appelait Casino Royale. Bon, il y a eu un autre Casino Royale avec Daniel Craig, mais le premier Casino Royale, lui, il fait intervenir pas moins d'au moins une dizaine de James Bond, au nombre desquels il y a David Niven et Peter Sellers. Donc ça, c'est un film assez curieux. George Lazenby, qui était un acteur australien et l'acteur d'un seul James Bond, au service secret de Sa Majesté, c'est sans doute l'épisode le plus célèbre, enfin le plus fidèle en tout cas, à mon sens, dû au récit de Ian Fleming, et celui dont l'interprète se rapproche le plus du personnage de papier. Ensuite, on a eu, après la série Le Saint, c'est Roger Moore qui a accepté le rôle d'En vivre et laisser mourir. 7 films plus tard, c'est Timothée Dalton qui s'y colle pour 2 films. Tuer n'est pas joué et Permis de tuer. Donc, Timothée Dalton, lui, n'a pas eu trop de chance, puisqu'il n'a pas été tellement apprécié par le public. C'est bien dommage, parce que c'est vraiment un acteur formidable. Et moi, je trouve que ces deux films sont particulièrement percutants. Notamment, Tuer n'est pas joué, qui est vraiment d'une violence assez extrême, avec un méchant terrible là, qui se balade avec un caméléon sur l'épaule. Et il est perturbitude, il détruit les gens, et tout, etc. Enfin, c'est vraiment une ordure. C'est le méchant qu'on adore détester, comme dans tous les James Bond. Et ensuite, on aura le fameux Pierce Brosnan, qui va jouer dans 4 volets de la saga.
Et ça, c'est mon préféré.
Ça, oui, c'est le préféré d'Aurore. GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, et Meurt un autre jour. Après, changement radical de style avec Daniel Craig, lui qui va vraiment livrer une interprétation plus violente et torturée de l'agent secret, notamment dans Casino Royale et Skyfall, que je trouve quand même assez exceptionnel celui-là. Vraiment très très bon. Alors, qui sera le prochain interprète de James Bond.
Moi, j'ai donné un indice. Il fut une émission, donc j'ai eu Ouidia, mais...
Oui. Alors, il était question par...
Henri Cavill, peut-être.
Voilà, c'est ça, c'est possible. Bon, là, je crois que c'est Amazon Prime, hein, si je ne me trompe pas, qui a racheté la licence. On a pensé aussi que ça pouvait être une femme. Afro-américaine, oui. Notamment, surtout si on voit ce qui se fait passer dans les derniers épisodes de James Bond. Donc, beaucoup de rumeurs courent sur les réseaux sociaux à ce sujet. Alors, j'ai envie de dire, comme disent les anglo-saxons, wait and see.
Voilà. Et par contre, j'ai une grosse déception, c'est que Daniel Craig ne soit pas là aujourd'hui.
Non, mais surtout qu'il a radicalement changé de look. Donc par rapport au look qu'il avait dans James Bond, c'est vraiment...
Ah oui, c'est complètement l'opposé.
On est passé de vraiment à tout à fait autre chose là maintenant. Et voilà.
On va parler d'un film indien maintenant.
Donc là, je vous fais faire un tour du monde. Là, en quelques minutes en Inde. Enfin, jusqu'en Inde, tout du moins. On va essayer avec le film All We Imagine as Light de Payal Kapadia, ayant obtenu d'ailleurs le Grand Prix du Festival de Cannes 2024. Et cela faisait à peu près 30 ans qu'aucun film indien n'avait été en compétition à Cannes. Et à l'occasion de la fête des couleurs qui a eu lieu en Inde il y a quelques jours, marquant la fin de l'hiver et le début du printemps, à l'image de ce que l'on vit actuellement, bien qu'il neige encore, je crois, dans certaines régions françaises, je tenais à vous présenter cette belle trouvaille que j'ai pu découvrir via les nouveautés proposées sur la plateforme RTVOD en partenariat avec la médiathèque départementale de l'Oise, mais que vous pourrez aussi retrouver en bibliothèque très prochainement. Et ce film a aussi fait beaucoup penser et m'a fait écho en fait avec l'événement Color Run qui a lieu chaque année à Compiègne. Donc c'est une course haute en couleurs qui n'est pas sans rappeler justement cette fête indienne. Et la lumière est aussi centrale dans ce film de la réalisatrice indienne Payal Kapadia et ça fait du bien. Donc à Mumbai, Prabha, infirmière dévouée, vit dans l'ombre de l'absence, puisque son mari est disparu il y a des années, ce qui l'a obligée à renoncer à tout espoir d'amour. Sa jeune colocataire, Anu, brave les interdits et s'éprend d'un jeune homme que sa famille désapprouve. Alors leur quotidien, marqué par le silence et les secrets, bascule lors d'un voyage imprévu dans un village paisible au bord de l'océan. Et là, au rythme lent des vagues et des traditions ancestrales, elle découvre un souffle nouveau. Et c'est là où le passé les hante, mais l'avenir quand même semble soudain se parer de couleurs inattendues. Le film de Payal Kapadia est une œuvre poignante, qui oscille avec grâce entre profondeur et légèreté, captivant le spectateur, grâce à une approche à la fois sensorielle et aérienne. Alors la scène d'ouverture, qui est un long travelling à travers Mumbai, c'est vraiment un moment de cinéma, entre autres, dans le film, qui est particulièrement marquant. Et je trouve que rarement un film indien aura eu aussi brillamment capturé l'énergie vibrante de la ville et son esprit résolument contemporain. Alors j'y ai décelé quand même l'influence subtile, je reconnais, de Wong Kar-wai, notamment dans la manière de filmer Mumbai avec ses flux incessants et ses lumières éblouissantes. Alors bien que le film se déroule dans un contexte social complexe pour les femmes en Inde, donc c'est un thème qui est souvent exploré dans d'autres productions du pays, il adopte ici un ton plutôt doux, contemplatif, glissant même vers un état onirique dans sa partie finale qui se déroule au Kerala. Le film explore le mal-être féminin indien à travers le prisme de trois générations de femmes. Donc la maturité incarnée par Prabha, la sagesse de l'âge mûr avec Parvati et l'innocence de la jeunesse avec Anu. Donc c'est un film qui a à découvrir en plus, et j'ai trouvé que c'était assez exceptionnel, 2 heures en version originale. Vraiment, n'ayez pas peur. Vraiment, je trouve en tout cas, à titre personnel, que ça vaut le détour. Et vraiment, c'est un film qui est d'une profonde humanité. Et aussi, la traduction du titre du film, c'est « Tout ce que l'on imagine être de la lumière ». Alors, je vous invite à vous laisser guider par la lumière promise dans le titre du film.
Oui, c'est une belle ode à la féminité, à la sensualité, à la douceur. Merci, Amy. Alors, on arrive au terme de cette émission. Donc, nous avons présenté La famille Rook de Katia Schoenherr, Apples Never Fall de Liane Moriarty, Le lac de la création de Rachel Kushner, Banlieue sud-est de René Fallet. Nous avons parlé de la saga James Bond, du personnage de papier au héros de cinéma et du film All We Imagine as Light de Payal Kapadia. Les prochains événements de la bibliothèque. Donc à partir de demain, nous proposons la Cité Philo, une série de conférences, débats, de tables rondes, l'occasion de philosopher sur différents thèmes. Donc demain à 17h, ce sera sur l'intelligence artificielle, sujet très actuel, avec Julien Gobin. Mardi 25 mars à 18h, la séance se penchera sur la vitalité de nos rapports aux forêts. Leur capacité à réguler l'eau, le climat, les sols et à susciter émerveillement et coopération. Avec Gaspard Dalens, auteur des Forêts en bataille. Jeudi 27 mars à 18h30, nous poserons la question de notre relation avec la nature dans une enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant avec Jean-Philippe Pierron. Par ailleurs, samedi 29 mars, la bibliothèque vous propose une journée dédiée aux Carmélites de Compiègne avec une conférence de Martin Dumont, puis la projection à 15h30 du film de Philippe Agostin, Le dialogue des Carmélites, un film de 1960 qui a été tourné en partie à Compiègne et qui est d'après l'œuvre de Georges Bernanos. Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain rendez-vous culture à la bibliothèque le vendredi 28 juin à partir de 18h et sur nos ondes préférées le vendredi 25 avril à 18h pour une émission spéciale série. Merci beaucoup Amy, Willy, Yann et Aurore. Et bon week-end!